Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec les grandes voix qui vous entourent jusqu'à 19h. Ce soir, Michel Cotta, Frédéric Dabi de l'IFOP et Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Bienvenue. Alors Michel m'accompagnait déjà tout à l'heure, je vous accueille. Et bien sûr Frédéric Dabi et Emmanuel Dutheil. Et c'est vers vous que je vais me tourner, Frédéric, pour avoir une lecture de ce qu'on disait avec Michel au sujet des indiscrétions. Gilles Legendre, quelle mouche l'a piqué, le président du groupe La République En Marche. On se demande ce qui s'est passé pour qu'il nous déroule comme ça cette note en vue du remaniement, ou plutôt qu'il se fasse shipper cette note en vue du remaniement,
oui,
mais bien complète, hein, remarquez.
Il y a un côté effectivement cocasse, c'est en rupture totale avec le principe de séparation des pouvoirs, hein. C'est pas un député ni le législatif qui donne la feuille de route du pouvoir exécutif. L'opinion publique, j'imagine comment elle peut réagir. C'est une très forte indifférence. Gilles Legendre est quasi inconnu de l'ensemble des Français. Les Français sont le plus souvent sur une non pas sur une logique de casting gouvernemental, mais sur une logique de résultat, une logique d'efficacité. Et il est très rare qu'un remaniement ait pu créer une sorte de choc psychologique et faire remonter un président des limbes de l'impopularité. En plus, si je vois le texte...
Ce qui est drôle quand même, c'est de donner la liste, peut-être un petit peu. Il pense à Le Maire pour remplacer Édouard Philippe, même s'il manque de charisme. Le Drian exit, Le Drian, parce que c'est vrai qu'il est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Manuel Valls au Quai d'Orsay, Michel Cotta...
Ça veut dire, on sait l'analyse de Gilles Legendre depuis longtemps. Il pense que effectivement Édouard Philippe a fait son temps, que c'est quand même originellement un homme de droite. Alors je ne dis pas sur Bruno Le Maire, mais je vois que le nom de Le Drian et le nom de Valls n'est pas au hasard. C'est pas le bottin mondain. C'est visiblement une ouverture vers la gauche et vers une gauche sociale.
Le problème, c'est que les Français ne sont pas du tout à dire qu'Édouard Philippe a fait son temps. Il connaît, au contraire, un véritable état de grâce depuis quelques semaines.
Si je prends
le dernier
FOP
fiducial pour Paris Match, jamais l'écart avec Emmanuel Macron a été si fort. 13 points, il redevient majoritaire et c'est un Premier ministre attrape-tout qui progresse fortement à gauche, qui a 75% d'approbation de son action à droite. Alors, on sait très bien qu'il y a des Premiers ministres populaires qui ont été virés purement et simplement. Oui. Michel Rocard, il y a une trentaine d'années. Jacques Chaban-Delmas, voire Georges Pompidou après la crise de 68. Mais en tout cas, les présidents qui ont mis fin aux fonctions de Premier ministre populaire l'ont payé fortement après, je pense à François Mitterrand, après le départ de Michel Rocard.
Mais du coup, Michel Cotta, la question, évidemment, on se l'est posée déjà hier sur l'avenir d'Édouard Philippe et sur la volonté. Juste un mot pour clôturer avec Gilles Legendre, le président du groupe des députés. Quand on signe ça, on prend la porte dans la foulée?
Ça dépend des députés, là aussi, pour le coup. C'est pas l'exécutif qui peut
évacuer un président de groupe. Il signe.
Moyennant quoi, c'est vrai que c'est difficile de rester après dans ces conditions, sauf si vous avez 75% du groupe parlementaire qui dit il a raison.
Il participe, Gilles Legendre, au petit déjeuner de la majorité. Ça mardi en présence d'Edouard Philippe, ça va être sympathique mardi prochain.
Accessoirement, voilà. Alors, allons sur ce qui va se passer là, dans les prochaines semaines et dans les prochains jours. Ce 14 juillet, 14 juillet d'exception, sans le traditionnel défilé, qui risque aussi d'être finalement le tournant, le moment du tournant, Michel Cotta. Ça, c'est pour l'affichage, pas de défilé, l'hommage aux soignants, bien sûr. Mais c'est là aussi qu'Emmanuel Macron présente sa nouvelle ère, d'une certaine manière.
Alors, je crois que ça n'a rien à voir avec la constitution même du 14 juillet. Il n'y a pas de défilé militaire parce que on ne peut pas mettre des milliers de militaires. On demande aux gens d'être à 10 au maximum. Bon, je crois que ça... Mais c'est vrai qu'on dit que c'est au tour de juillet. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que Emmanuel Macron lui-même vient de faire quelque chose de complètement inédit dans l'histoire de la Ve République, c'est-à-dire d'envoyer une lettre aux trois présidents du Sénat, Assemblée nationale et Conseil économique et environnemental, en leur demandant quelle perspective ils dessinent pour au fond une nouvelle concorde générale. Alors ça, c'est la première fois que ça a été fait, et je ne sais pas quelles vont être les rédactions.
Ils ont un mois pour lui fournir un travail de synthèse. Les partenaires sociaux hier.
Je trouve que Michel a tout à fait raison de souligner ce point. Là aussi, c'est complètement inédit, et c'est en rupture avec le principe de séparation des pouvoirs. L'IFOP vient de faire une enquête inédite auprès de l'ensemble des parlementaires français, et leur première demande, c'était un meilleur contrôle du pouvoir exécutif, et pas que l'exécutif lui demande quelle sera les perspectives futures. sur le défilé du 14 juillet, c'est intéressant de voir à quel point Emmanuel Macron continue de filer la métaphore guerrière. Nous sommes en guerre, et donc l'épisode final, c'est la présence des soignants qui vont remplacer les forces militaires. Les Français n'ont jamais bien accepté ce terme. Nous sommes en guerre, ça a au contraire réactivé des critiques vis-à-vis d'Emmanuel Macron et de la situation de l'hôpital en France.
Alors, on revient quand même sur l'aspect économique des choses, parce qu'effectivement, le CESE et puis les partenaires sociaux hier, Emmanuel Duteil est avec nous aussi pour regarder comment aborder la suite de cette crise, bien sûr à laquelle on fait face dans un petit instant avec les grandes voix du vendredi.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h.
Emmanuel Duteil, évidemment Michel Cotta, Frédéric Dabi, mais Emmanuel Duteil, parce qu'on a commencé à ouvrir la porte là de la question économique. On a vu hier les partenaires sociaux, on a vu que le CESE devait rendre son travail de synthèse. Ils ont un mois pour plancher dessus. On le sait, la situation économique, elle est gravissime. On a donné des chiffres, la dette, etc. Mais le moral des Français, parce que l'ouverture des terrasses, parce que les vacances qui approchent, paradoxalement, il reprend du poil de la bête.
Oui, un petit peu du poil de la bête. Et c'est vrai qu'on voit que, notamment dans les grandes villes, les gens retournent du côté des restaurants, du côté des cafés. Alors, ce secteur n'a vraiment pas de chance avec notamment le mauvais temps qui s'est installé sur une bonne partie de la France. Mais bon, malgré tout, on sent qu'il y avait une envie de se retrouver. Donc ça, c'est plutôt bon. Il y a un autre indicateur qui semble intéressant là-dessus, c'est que les Français commencent enfin à réserver un peu leurs vacances pour cet été. Alors, on est très, très, très loin des grands rushs habituels en la matière, mais malgré tout, tout le monde le dit. Par exemple, Pierre et Vacances Center Parcs, qui est un des grands groupes hôteliers français, eux, ils disent que c'est dingue, ça y est, c'est vraiment parti. Le Club Med dit aussi que c'est parti pour ces clubs français, avec des points qui semblent vraiment marquer la crise. Par exemple, semble-t-il, pour le moment, les Français cherchent, et c'est pour ça que ça marche bien chez Pierre et Vacances, des appartements avec des cuisines indépendants. Donc ça, ça a l'air d'être un point très important. Les résidences de loisirs ont véritablement la cote. La montagne, qui connaît depuis quelques années une petite progression, là, est en très forte hausse. Mais c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a, alors, je ne sais pas si c'est un regain d'optimisme, en tout cas, une envie de mettre un peu tout ça de côté, mais après, ne jamais oublier que
les risques sont là.
9 à 10 millions de personnes sont encore au chômage partiel et que quand on n'a que 84% de son salaire net, bah, c'est bien gentil d'avoir envie d'aller en vacances, mais on ne peut pas toujours le faire.
Oui, on a l'impression quand même que tout le monde pense à vacances et tout le monde essaye de repousser les problèmes qui se poseront à la rentrée. Et il n'y a au fond que le. On voit très bien quand Muriel Pénicaud attaque sur l'apprentissage, on voit très bien qu'il y aura un gros problème du chômage des jeunes et que l'apprentissage a subi un coup d'arrêt formidable pendant ces deux mois et que c'est pourtant important.
Mais ce point sur l'emploi des jeunes, c'est plus grosse inquiétude en ce moment du gouvernement. Tous les ministres concernés que j'ai pu rencontrer ces derniers temps sont catastrophés par cette génération sacrifiée. Il faut quand même voir que vous avez 700 000 à 800 000 jeunes là qui vont arriver sur le marché du travail. Donc le plan qui a été annoncé hier soir est un plan massif, c'est-à-dire grosso modo jusqu'à 20 ans, l'apprenti ne coûte rien. Après, même si toutes les premières retombées qu'on commence à avoir du monde patronal dit c'est super, c'est la mesure qu'il nous fallait, mais j'embaucherai si j'ai des commandes.
Évidemment, personne n'est dupe.
Si le collaborateur ne vaut pas grand-chose ou ne coûte pas grand-chose.
Oui. Non, mais c'est vrai que les enquêtes enregistrent complètement le mouvement que vous venez d'écrire. Pour la première fois, l'inquiétude sanitaire sur la maladie s'effondre, moins 11 points. On revient au niveau d'avant le confinement, mais en revanche, l'inquiétude sur les conséquences économiques de la crise sont extrêmement fortes, notamment auprès de deux générations, les 25-34 ans, la génération de l'insertion qui peine à s'insérer, qui a eu des difficultés après la récession de 1994, après la crise de 2008-2010, et auprès des 50-64 ans qui craignent être sortis des entreprises. C'est vrai que parallèlement, il y a une sorte de mise à distance, on ne se cache pas la vérité, mais c'est mis à distance. L'optimisme qui était au plus bas avant le déconfinement, le plus bas jamais mesuré depuis 25 ans par l'IFOP, a repris une quinzaine de points depuis à peine 3 semaines. Il y a un mouvement un peu ambivalent.
Mais alors, ce qui est important quand même, c'est les jeunes, c'est quand même pour le gouvernement, on voit bien une préoccupation, pas seulement économique. Pas seulement économique, oui, il faut les faire entrer, mais aussi sociale. Parce que tant que, vous savez, la peur qui dure de mai 68, ou tant que les jeunes ne sont pas mobilisés, tout est possible. Et au fond, c'est ça qui a fait supporter quelque part les Gilets jaunes, qui n'étaient pas Qui étaient plutôt des quarantaines, des cinquante ans.
Donc il faut prévenir le péril jeune sur ces deux aspects-là. Hein,
donc, vraiment. Il faut voir, il y a effectivement, dès qu'on parle des jeunes, on voit les voyants qui s'allument dans la tête du président et du chef du gouvernement, qui est, attention, là, il faut faire très gaffe.
Juste un mot, on fait un détour par les États-Unis, Emmanuel Duteil, parce qu'on ne s'attendait pas du tout aux chiffres qui nous sont parvenus aujourd'hui même. Il y a quoi, il y a deux heures de ça,
oui,
à peu près.
C'est à 15h que ça tombe à chaque fois le premier vendredi du mois. On a donc les chiffres du chômage aux États-Unis pour le mois précédent. Et c'est vrai qu'on s'attendait à de mauvais chiffres sur l'emploi. Ces dernières semaines, ça avait été cataclysmique, le nombre de personnes qui s'étaient retrouvées sans emploi. Et là, de façon totalement surprise... Alors, faut toujours faire très attention avec les chiffres américains qui ont tendance à être corrigés assez vite derrière. Mais bon, malgré tout, la tendance est tellement forte, ils ont créé 2,5 millions d'emplois. Ce qui laisse penser qu'une grande partie des gens qui avaient été, pardonnez-moi l'expression, mais mis à la porte très durement et très rapidement dès le début du confinement, une partie de ces gens ont retrouvé un semblant d'activité économique. Bon, vous avez quand même 13% de chômage en ce moment aux États-Unis, mais c'est vrai qu'on pensait qu'on irait plus vers la barre des
1, bien sûr.
Et on redescend vers la barre des 10. Donc là, on a quand même un signal de se dire que la première économie du monde a peut-être une résistance supérieure d'ailleurs, à ce qu'on avait imaginé.
D'ailleurs, Donald Trump a réagi. Non, alors, il a englobé, il n'a pas tardé à enchaîner.
Je suis désolé, mais je vais sortir de mon rôle de journaliste. Mais c'est ridicule la façon dont Donald Trump a commenté. Je vous propose de le lire. Selon Donald Trump, elle marque un grand jour pour George Floyd, un homme noir dont la mort par asphyxie se souvient. J'espère que George nous regarde de là-haut en pensant que ce qui arrive au pays est grandiose. C'est un grand jour pour lui. C'est un grand jour pour tout le monde.
Tout arrive.
C'est franchement ridicule.
Alors là, on s'attendait. Mais attends, gardez-en un tout petit peu pour juste après. Les grandes voix, vous êtes de retour dans une seconde. On va faire le pont justement entre George Floyd et ce qui se passe en France avec des manifestations interdites demain d'ailleurs, qui s'annonçaient peut-être tendues. En tout cas, la préfecture de police a interdit. C'est avec vous, les grandes voix, dans une seconde.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix.
Avec vous trois, bien sûr, encore pendant quelques minutes pour évoquer ce qui est interdit désormais. Demain, la préfecture de police a interdit la tenue de deux rassemblements prévus devant l'ambassade des États-Unis en hommage à George Floyd, cet Américain noir de 46 ans asphyxié par un policier blanc. Et bien sûr, le parallèle a été effectué très vite, mardi, à la mémoire d'Adama Traoré. On a vu, bien sûr, ces images. Et depuis, cette reprise en main, clairement, Michel Cotta, qui fait craindre peut-être le pire aux forces de l'ordre. L'exécutif aussi.
Reprise en main, amalgame plutôt, amalgame, c'est vrai. Alors on ne peut pas comparer les deux cas, on peut pas effectivement comparer les images effroyables qu'on a vues venant d'Amérique et le racisme en gros, le racisme d'État américain avec un certain racisme français. C'est vrai que l'amalgame est rapidement fait et par les partis de gauche, par la France insoumise, par les antifas, et si on additionne à ça, c'est pour ça que je disais que le problème économique des jeunes est embêtant, et même plus qu'embêtant, c'est que justement ça permet un rassemblement de jeunes. Et d'ailleurs, on le voit bien sur les images.
Et sur les réseaux sociaux, parce que
j'ajoute
évidemment,
aussi
il y a l'emballement.
Ce sont des jeunes qui ne sont pas dans des climats économiques flamboyants, vous voyez.
Et on voit aussi comment ça s'emballe sur les réseaux sociaux, un peu à la manière des gilets jaunes. Frédéric Dabi, ça peut être un nouveau caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron en sortie de crise, alors qu'il espérait des jours heureux.
Non. Il y a un peu trop tôt pour le dire. Bien sûr. Vrai que cette affaire dramatique venue des États-Unis a électrisé, réactivé la question des violences policières qu'on avait vues pendant les Gilets jaunes. D'ailleurs, pendant les Gilets jaunes, les Français faisaient systématiquement la dissociation entre les revendications jugées légitimes des Gilets jaunes et les actes de violence, quand bien même ils étaient responsables. Et puis, la question de l'image de la police, notamment auprès des jeunes. On a reposé nos questions historiques sur du baromètre de la police. On voit que les sentiments positifs restent stables. Il n'y a pas, je dirais, d'effet Floyd ou bien une réactivation de l'affaire Adama Traoré, mais le niveau de confiance recule fortement, notamment chez les jeunes. Il y a maintenant une image extrêmement clivée de la police auprès de la population française. En gros, chez les moins de 40 ans, il y a une image extrêmement dégradée et nettement plus positive chez les personnes les plus âgées. En revanche, l'idée que la police est raciste est largement minoritaire pour trois quarts des Français.
Michel ?
Non, mais et ça prouve que ça accentue encore le clivage des générations. C'est vrai qu'une majorité de Français pense que tout de même, pendant les crises des Gilets jaunes et les violences des Gilets jaunes, la police était là pour répliquer, mais d'autres Français pensent qu'elle a répliqué trop fortement. Et c'est tout le problème politique. Un ministre de l'Intérieur doit à la fois couvrir ses troupes et à la fois... leur donner des consignes claires. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Ils sont toujours poursuivis. Le problème est de savoir comment ils sont poursuivis.
D'ailleurs, Emmanuel Macron avait promis en début d'année d'améliorer la déontologie des forces de sécurité au regard, bien sûr, de cette crise. Avec quand même, en 2019, on le rappelle, sur les 1500 enquêtes dont l'IGPN a été saisie, seules 30 concernent des faits de racisme. Seuls 30 concernent des films racistes. C'est à peine 2%, les chiffres de l'IGPN. On va évidemment regarder et observer de très près ce qui se passe samedi. Donc, parce que malgré tout, il y a des manifestations dans d'autres villes de France. Donc, ce sera à surveiller. Emmanuel Dutheil, je ne vais pas vous interroger là-dessus, encore que vous pourriez. Mais
non,
surtout,
j'ai pas grand chose à dire.
Mais surtout sur
j'ai un avis de citoyen, mais un avis de journaliste économique assez limité.
Sur mardi, en revanche, je pourrais vous commencer à vous interroger parce qu'on attend 15 jours après, je crois qu'on est pile 15 jours après le plan sur l'automobile, oui, le plan aéronautique.
Oui. Il va y avoir 4 plans en tout qui vont officiellement coûter 40 milliards d'euros. Alors, ce n'est pas 40 milliards d'euros toujours déboursés directement. Il y a eu donc, comme vous l'avez dit, le plan sur l'automobile, on a eu le plan sur le tourisme et la culture, et on a eu aujourd'hui le plan pour les start-up où 1,2 milliard ont été débloqués pour les aider à passer la crise. Alors, le plan aéronautique, ça va être un énorme plan. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un fonds d'investissement pour permettre au groupe de continuer d'investir. Je pense qu'il va être aux alentours de 500 millions, 1 milliard d'euros. C'est en train de se finaliser. C'est Emmanuel Macron qui fera les annonces.
Bruno Le Maire qui est à la manœuvre.
C'est Bruno Le Maire qui travaille là-dessus. Mais le président de la République veut vraiment montrer qu'il est en soutien. Il l'a fait pour tous les autres secteurs. Donc, il le fera pour l'aéronautique. Donc, un fonds d'investissement. Bon, c'est bien gentil de mettre des sous. Ça sert à quoi? Ça sert à continuer d'investir sur les technologies d'avenir, sur les technologies vertes, pour soutenir tous nos sous-traitants qui sont très impactés. Et le point le plus important, alors ça va peut-être vous paraître technique, mais je vais le raconter facilement. Quand les compagnies achètent des avions, donc notamment chez Airbus, les compagnies étrangères, il y a un système de garantie à l'export qui permet que tout ça se passe bien. Et là, la garantie à l'export va être repoussée, a priori d'un an, pour permettre quoi? Pour dire aux compagnies, c'est pas grave, vous paierez plus tard, mais au moins vous n'annulez pas votre commande et vous nous achetez quand même bien nos avions. Ça va quand même coûter, mine de rien, aux alentours d'un milliard d'euros.
Le problème, c'est qu'il faut que des gens reprennent l'avion.
Il faut que des gens reprennent l'avion, effectivement, mais ça, on va voir si les gens partent en vacances.
Ils font tout pour. Ils font tout pour.
Je sais pas si ce matin vous étiez à l'écoute d'Augustin de Romanet, le patron d'ADP. C'est vrai que c'est impressionnant de dire qu'il a perdu 98% de son chiffre d'affaires. On se tait, je crois que Nathalie veut qu'on arrête.
Non, mais sinon, je vous arrête jamais, vous, Emmanuel Dutheil, je vous connais. Merci beaucoup, Frédéric David. Merci, Michel Cotta, Emmanuel Dutheil. Les grandes voix, bien sûr.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy.
Un rendez-vous, le président des Républicains, Christian Jacob, l'invité dimanche matin du grand rendez-vous à 10h, c'est sur Europe 1. Michaël Darmon aux commandes. Dans un instant, c'est le journal de Lionel Gougenot, 19h.
Europe 1.